C'est Ludique, 9h30, 10h.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, bienvenue dans la 500e quotidienne de C'est Ludique. Alors C'est Ludique existe depuis 2019 déjà, il y a eu 160 émissions hebdomadaires et là aujourd'hui c'est la 500e de la quotidienne. Oui, 500e de la quotidienne, donc événement particulier. J'ai décidé d'avoir deux auteurs aujourd'hui. Et oui, et ils vont se poser même les questions. C'est même pas moi qui vais poser les questions, c'est eux qui vont se poser les questions. C'est Johan Levé et Fabien Gridel. C'est Ludique, ça commence tout de suite avec une présentation comme d'habitude. Eh bien, on va parler d'un jeu de Fabien et de Johan. C'est chronologique.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Je vous dis, c'est le colonel Moutarde avec le couteau dans la bibliothèque. Alors si comme moi vous en avez marre du Cluedo et de vous chercher des intrigues plus stimulantes, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous emmène aujourd'hui à l'Opéra de Paris dans les années 1920. Et oui, il se passe de drôles de choses là-bas, et notamment des crimes, des apparitions de fantômes entre autres. Alors, avant que le public ne déserte les lieux, on fait appel à vous pour trouver le coupable. Voici Chronologique, un jeu de déduction dont les auteurs sont les spécialistes du genre, bien sûr. C'est Johan Levé et Fabien Gridel, un jeu coédité par Ori Games et Super Meeple. Alors Chronologite, c'est un jeu où vous devrez trouver le coupable en fonction des différents indices que vous aurez dans le jeu. Vous allez retracer le parcours de ce personnage à travers 6 moments dans l'Opéra de Paris. Au centre de la table, nous aurons les tuiles personnages, les tuiles numérotées de 1 à 6 qui correspondent donc au moment, et des cartes lieux. Il faudra essayer de reconstituer l'histoire pour savoir par exemple à quel moment la victime s'est retrouvée seule avec un personnage. Si c'est le cas, bah c'est forcément l'assassin. Mais alors comment on joue? Ben on va choisir un scénario. On va prendre le premier pour mon exemple Poison Mondain. Le scénario a un niveau de difficulté, une étoile, ne commencez pas par un qui a 3 étoiles, il y a différents niveaux de difficulté. Le but là est de trouver qui est l'assassin du détective. Alors pas de panique, je ne spoil rien. Les questions que l'on doit donc se poser, à savoir à quel moment le détective s'est retrouvé seul avec un personnage, dans quelle pièce ça s'est produit et à quel moment de la soirée. À chaque fois vous avez une mise en place de départ avec les différents personnages et vous noterez ça sur votre fiche à l'abri des regards, derrière votre paravent, car plus la partie avance et plus vous allez faire forcément des déductions. Alors il faut savoir qu'à chaque tour, les personnages se déplacent dans un lieu adjacent. Un lieu est adjacent s'il y a une porte. Bien entendu, il peut aussi faire marche arrière, mais que d'une pièce à la fois. Alors à mon tour, je peux faire une action en mettant la carte lieu sous une tuile personnage ou sous une tuile moment. Par exemple, si je veux savoir au temps numéro 4 s'il y avait quelqu'un dans la salle de musique, je prends la carte de la salle de musique que je glisse sous la tuile numéro 4, et là j'aurai deux informations grâce au petit trou des tuiles. Une information pour tout le monde et une information que pour moi. L'information pour tout le monde, ça peut être indiqué 1, cela veut dire qu'il y avait un personnage autant 4 dans la salle de musique. L'information pour moi peut-être est de me dire quel est le personnage qui était présent. Parfois il n'y a aucune information et vous pouvez aussi rejouer. On peut aussi prendre une tuile personnage pour savoir combien de fois il est passé dans une pièce. On pourra même avoir des informations. Par exemple, on peut me dire qu'au moment 3, le journaliste était dans la salle de danse. En gros, vous saurez à votre tour soit le nombre de personnages qui sont présents à un temps donné, soit le nombre de fois qu'un personnage y est passé, tout temps confondu. Alors à force de faire des tours et de poser des questions grâce au principe des tuiles, vous allez noter sur votre feuille et comprendre le déplacement des différents personnages. Quand vous pensez avoir trouvé le coupable, vous dites « j'ai trouvé ». Vous regardez la réponse, si c'est bon, bah vous avez gagné. Sinon, bah c'est perdu et vous laissez les autres joueurs tenter de trouver. Si personne ne trouve, eh bien vous avez tous perdu. Il y a pas mal de rejouabilité car il y a 3 scénarios avec à chaque fois 5 niveaux de difficulté. Au total, vous avez donc 15 enquêtes à résoudre. Et puis Chronologique est une série de jeux. L'an prochain, il y aura une nouvelle boîte dans un nouvel endroit. Et dans 2 ans également, la trilogie Chronologique ne fait que commencer. Et puis si vous aviez trouvé Turing Machine, des mêmes auteurs, un peu trop compliqué, Chronologique, c'est beaucoup plus accessible.
Événement ludique.
C'est la 500e aujourd'hui de C'est Ludique et pour ça j'avais envie d'innover un petit peu. Je reçois deux auteurs en même temps, Johan et Fabien. Salut.
Bonjour.
Alors aujourd'hui on va parler de Chronologique, mais on va innover un petit peu. C'est vous qui allez vous poser des questions. Fabien, t'as une question pour Johan?
Alors du coup, allez. Johan, on est tous les deux des fans absolus de Vlada Jvadil. Mais je voulais savoir, à l'exception de cet illustre auteur, quel autre grand auteur t'a inspiré ou à qui tu portes une admiration particulière pour son travail dans le monde du jeu?
Alors déjà, en effet, je porte une grande admiration pour Vlada, c'est le GOAT des auteurs. mais après, oui, j'ai envie de dire que j'adore en fait les auteurs qui... en fait, on pense innover, on appelle ça le jeu moderne, mais en fait, il y a des auteurs qui ont créé des jeux il y a des fois 40 ans, 50 ans, et qui pourtant sont des jeux d'une épure absolue. Et je pense à Sid Sackson et à plus récemment Knidia, qui est encore parmi nous et qui fait encore des super jeux. Mais voilà, je crois que Sid Sackson, son premier jeu, c'est Acquire, que je voyais encore jouer la semaine dernière par des joueurs, et il est sorti en 1964, c'est juste hallucinant.
Johan, toi, tu as une question aussi pour Fabien ?
Oui, donc moi, ma première question est un peu simple. Je vais juste demander à Fabien, parce que je sais qu'il joue un peu plus que moi. C'est vrai que moi, j'ai moins de groupes de joueurs que lui.
Ouais.
Et en fait, j'ai tout simplement envie de lui demander quel jeu il lui a plu récemment.
Eh ben, en fait, c'est un petit peu tous les jeux qui me plaisent. C'est vrai que je joue à énormément de nouveautés, donc j'ai un peu cette chance-là. Mais j'ai rarement envie d'y revenir. Donc j'ai souvent le plaisir de la découverte et rarement le plaisir de rejouer. Souvent parce que ça m'intéresse pas d'y rejouer simplement. Il y a quand même eu une exception ces derniers mois, c'est Altered, hein, le TCG de Régis Bonnecé, qui est l'ancien de Libellude et qui a fondé cette société Equinox et qui édite Altered. Tu parlais d'innovation dans le monde du jeu en citant Sid Sackson. C'est vrai que dans notre loisir, il y a assez peu d'innovation. Et dans Altered, qui est un TCG, donc un format qui est quand même assez connu et assez prolixe en ce moment, grâce à l'Orcana ou à des vieux jeux comme Magic, il a réussi à innover. Il n'a pas forcément innové que en termes de mécanique de gameplay, mais aussi dans la proposition de TCG, avec une aventure numérique qui est quand même très importante, le fait de pouvoir imprimer des cartes à la demande. En fait, une nouvelle vision du TCG et une nouvelle organisation des jeux de cartes à collectionner en général.
Alors moi, je vais vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce qui fait que vous aimez bien travailler ensemble ?
Déjà, on est amis depuis longtemps avec Johan, et ça, du coup, je pense que ça compte. Et du coup, il y a un respect mutuel de l'un envers l'autre qui me paraît indispensable pour dans la capacité à s'écouter. Je crois qu'on a pris l'habitude de laisser l'autre s'exprimer et on se comprend avec Johan, et du coup ça rend le processus créatif avec une émulsion, on va dire. C'est pas tout ce qu'on dit qui est pertinent et intéressant, mais dans tout ce que l'on dit l'un comme l'autre, on sait reconnaître chez l'autre la partie dont il faut analyser, pousser, aller plus loin et ainsi de suite.
Oui, je suis d'accord. Donc, en effet, c'est très important quand on fait du co-autorat, et ben en fait, d'être à l'écoute de l'autre. Et puis, c'est vrai qu'avec Fabien, en fait, on n'a pas d'ego par rapport à ça. On n'hésite pas à dire des grosses bêtises et on n'hésite pas à analyser les grosses bêtises que peut dire l'autre. Et puis de se dire que peut-être finalement derrière cette idée farfelue, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. Et puis évidemment, notre amour pour les jeux de déduction, qui forcément a fait que pour l'instant, la plupart des jeux qu'on a fait ensemble, c'est plutôt des jeux de déduction.
Ouais. Alors, on va continuer cette interview croisée où vous vous posez des questions tous les deux.
Fabien, donc comme moi, il n'est pas un auteur professionnel, c'est-à-dire dans le sens, il ne vit pas de ça exclusivement.
Ouais.
Et en fait, je me pose la question de comment il voit l'avenir et est-ce qu'il pense qu'un jour, c'est possible qu'il devienne vraiment un auteur à plein temps en abandonnant complètement son, entre guillemets, vrai métier.
Effectivement, moi j'ai la chance d'être cadre dans une grande entreprise publique. Et du coup, abandonner un poste qui m'assure une certaine sécurité financière, ça serait effectivement difficile dans ma situation. Je suis pas sûr que j'ai envie d'être un auteur à plein temps. En vrai, je suis pas sûr qu'au moment où je me dis que je deviens un auteur professionnel et que je me mets la pression pour en tirer mes revenus, ça m'amuserait toujours autant.
Ouais.
Et puis, il y a une deuxième réponse qui est un petit peu la vanité dans cette affaire-là. Dans la mesure où nos créations actuelles généreront peut-être des revenus dans plusieurs années, s'arrêter maintenant et devenir auteur à temps plein, c'est quand même avoir la vanité de penser que ce que je crée en ce moment aura de la valeur et plaira au public dans quelques années.
Ouais.
Et pour ça, il faut avoir une assurance en soi qu'en tout cas, je n'ai pas.
Et toi, Johan, t'aimerais être auteur à plein temps ?
En tout cas, je crée mes jeux et je mets l'énergie dans la création. Comme si c'était le cas, en tout cas.
Ouais.
Donc, pour l'instant, je suis réaliste et je sais que ce n'est absolument pas possible. J'ai des enfants qui sont actuellement dans les grandes études, donc il faut payer des appartements, des choses comme ça.
Oui.
Je sais que si un jour je veux devenir auteur à plein temps, il faudra que je commence par diminuer mon train de vie, entre guillemets, même si voilà, j'ai pas un train de vie exceptionnel, mais je pense que je suis prêt à faire des sacrifices pour essayer d'en vivre, mais je pense que c'est pas demain la veille quand même.
Fabien, une question pour Johan maintenant.
Bah oui, on a fait tous les deux des jeux de déduction qui sont quand même basés sur la logique. Mais il y a une autre catégorie d'enjeux de déduction qui existe, qui sont les jeux à déduction sociale. Il y en a eu pas mal qui sont sortis ces dernières années. Et je voulais savoir quel regard tu portais sur ces jeux-là.
Moi, je porte beaucoup d'attention à la classification de ce genre de jeux. Et c'est vrai que des fois, on les appelle incorrectement, du genre les jeux de déduction. Nous, en fait, ce qu'on crée, c'est des jeux de déduction logique, chronologique, Turing machine, etc. C'est des jeux de déduction logique.
Ouais.
Des fois, il y a des gens qui disent juste un jeu de logique. Alors, malheureusement, dans un jeu de logique, il y a souvent de la déduction. Et en fait, dans tous les jeux, il y a de la déduction. Même le pire des jeux de gestion avec des règles très compliquées, eh ben, t'essayes de déduire ce que va faire l'autre, de quoi il a besoin, etc. Donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, toutes ces appellations. Une chose est sûre, c'est que moi, les jeux qui me plaisent le plus, c'est les jeux de déduction logique, quand il y a 100% de logique. À partir du moment, même dans un jeu qui est classé déduction logique, où il y a un peu de bluff, ben déjà, moi, ça me plaît beaucoup moins. Il y a beaucoup de jeux qui ont du bluff dans leur aspect. Mmh. Et c'est vrai que forcément, les jeux de déduction sociale, le bluff rentre énormément en compte. Donc pour moi, c'est pas dans la même catégorie que les jeux de déduction logique, même si il y a quasiment le même nom.
Quel conseil vous pourriez donner à un novice en jeu de déduction ?
Je lui conseillerais de s'attaquer à tous les grands classiques. En fait, il y a tellement de jeux de déduction qui sont sortis, qui sont dans tellement de plein de catégories différentes, beaucoup qu'on appelle des déductions, mais qui n'en sont pas véritablement, que la première chose qu'ils devraient faire, c'est avoir une culture de jeu de déduction. Voilà, ça serait mon premier conseil.
Ouais. Et toi, Johan ?
Quelqu'un qui voudrait s'attaquer au jeu de déduction logique, bah, faudrait déjà qu'il évalue si ça lui plaît vraiment. En fait, un des jeux de déduction logique le plus simple qui existe, c'est par exemple le Sudoku ou les trucs comme ça. Donc après, il faut aimer ce genre de jeu. Alors, ce genre de jeu, en général, c'est plus ou moins abstrait. On a vu avec Turing Machine qu'on était à une extrémité de l'abstraction et avec Chronologie qu'on était à l'autre extrémité avec un thème fort.
Ouais.
Et donc, bah, oui, faut surtout que, voilà, essayer un peu tous les genres, essayer les classiques. Et puis, bah, ne pas hésiter à dire que ça ne lui plaît pas. Mais moi, je suis du genre à penser que les gens adorent les jeux de déduction logique, tout simplement, parce que quand on voit le nombre de personnes qui jouent à des sudoku, des trucs comme ça,
ouais,
c'est un public très très large, et je pense que c'est très rare les personnes qui n'aiment pas les jeux de déduction logique.
Justement, ce nouveau jeu, la chronologique, il est plus simple que Turing Machine ?
Moi, je dirais que oui, parce qu'on se raccroche à un thème. Et quand même, il faut savoir que Turing Machine, c'est un jeu d'induction. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails, mais en fait, il y a un petit déclic à avoir pour comprendre comment fonctionne Turing Machine. Et ça, déjà, ça peut être rédhibitoire chez certains joueurs. Ici, chronologique, le gros avantage, c'est qu'on est dans un jeu, on peut dire que c'est une sorte de sudoku, c'est un vrai jeu de déduction logique, sauf que pour résoudre une enquête, il faut répondre à des questions thématiques après avoir écouté une histoire. Et c'est ça qui, à mon avis, va faire que, eh ben, il y a beaucoup plus de gens qui vont se sentir concernés par ce jeu. Donc voilà.
Allez, on va retrouver Johan et Fabien d'ici quelques instants dans C'est Ludique. C'est la 500e aujourd'hui.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et c'est la 500e aujourd'hui de C'est Ludique. On va retrouver tout de suite la suite de l'interview de Johan Levé et Fabien Gridel. Alors avant vos dernières questions, on va parler un petit peu de chronologique. Comment ça s'est passé? Parce que là, on est sur de la coédition. Vous aviez proposé le jeu aux deux éditeurs, Henry Games et Super Meeple?
Alors non, on a d'abord signé avec Super Meeple.
D'accord.
Et c'est Super Meeple qui, en cours du développement, nous ont proposé de plutôt faire une coédition parce que ça paraissait pertinent de faire ça avec Ori Games de l'autre côté. Ça ne changeait pas nos conditions à nous, donc on n'y a vu forcément que des avantages.
Ouais.
Et donc ça s'est fait comme ça.
C'est plutôt intéressant, deux éditeurs qui vont défendre le projet.
Oui, c'est sûr. Surtout que en fait, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est toujours Ori Games qui s'occupe un peu de la production des fois de certains éditeurs. Et là, ben, le fait d'avoir cette coédition est sûr d'avoir les deux forces des éditeurs qui se battent pour le même jeu. Et en effet, c'est super positif, quoi.
Est-ce que l'on peut dire que Chronologite, c'est un Cluedo moderne?
C'est un Cluedo moderne dans le bon sens du terme. C'est un Cluedo moderne dans le sens, de mon point de vue, Cluedo, c'est pas un jeu de déduction. Si tu me montres la carte Colonel Moutarde, je raye Colonel Moutarde et j'ai rien déduit.
Ouais,
donc,
c'est vrai.
Là, ici, dans Chronologique, c'est un vrai jeu de déduction dans le sens où on te donne des informations éparses et de ces deux déductions, tu vas déduire quelque chose. Tu as deux informations qui t'obligent à déduire quelque chose. Et par contre, il se rapproche du Cluedo dans le sens où on nous pose une question et on est porté dans un thème.
Ouais.
Exactement comme dans le Cluedo. En plus, le Cluedo, ça a quand même l'avantage de parler à tout le monde dans son imaginaire. On voit bien qu'on mène une enquête. Donc, je trouve que le terme Cluedo moderne est une bonne appellation.
Oui, c'est ça. Surtout que moi, je pense qu'un jeu, souvent, a besoin en fait d'un pitch. Il a besoin, enfin, en tout cas, ça lui bénéficie d'avoir la capacité à être décrit et que le joueur puisse se projeter assez rapidement en des fois une seule phrase, ce qu'on appelle le pitch. Et là, le fait, ce jeu, de pouvoir le résumer en c'est un Cluedo moderne, je pense que c'est en faveur du jeu.
Ouais. Quand vous avez proposé l'histoire du jeu, on était déjà à l'Opéra de Paris ?
Non, on avait avec Johan beaucoup d'univers différents,
ouais.
Avec des histoires tout à fait indépendantes, beaucoup d'univers différents, mais on pouvait très facilement les adapter à un espace clos comme l'opéra.
D'accord.
Ce qui va nous permettre en fait de créer beaucoup de variations dans le jeu, c'est que en fait la déduction que l'on va avoir sur certaines parties est très dépendante du plan en fait dans lequel on est. Et autant je veux pas spoiler les prochaines boîtes, mais autant là on est juste dans un bâtiment, ces différentes pièces, autant on peut imaginer vraiment des tas de choses et de dispositions qui vont vraiment renouveler l'expérience de jeu.
Ouais, parce que il y aura une suite, même plusieurs suites, hein.
Pour l'instant, de prévu, l'année prochaine, je ne suis pas sûr de l'ordre, mais je crois que c'est Cusco, voilà. Et puis l'année suivante...
C'est Babylone 2050, c'est
ouais, voilà.
Dans chaque boîte, on aura 15 enquêtes.
Ouais, donc ça, c'est important de dire quelque chose. Donc, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Chronologique, on a une histoire qui est super importante parce que, et vous le verrez en testant les histoires de la première boîte, l'histoire fait que vous n'allez pas... chercher la même chose, vous n'allez pas jouer même de la même manière. Et donc, dans la première boîte, il y a trois histoires. Donc, c'est vraiment un scénario, une explication, un contexte, etc. Et après, évidemment, qu'avec la même histoire, on est capable de faire plusieurs parties. Parce que nous, en fait, une partie, c'est juste un pack de quelques cartes.
Oui.
Et en fait, on est capable, la même histoire, dans une boîte, de la rejouer 5 fois. C'est-à-dire que ça va être une partie complètement différente, plus ou moins difficile, avec tout simplement des fois pas le même coupable.
Ouais.
Il s'agit de trouver un coupable. Et surtout, en fait, là où le jeu est vraiment rejouable, il faut savoir déjà que si on n'a pas une super mémoire, les 15 parties, on peut les recommencer, et à moins de se rappeler exactement les déplacements des gens, c'est rejouable. Mais surtout, on propose des PDF téléchargeables qui permettent, en une page, on découpe quelques cartes et on peut faire une nouvelle variation
D'accord.
de l'histoire qui est dans la boîte. Donc ça, il va y en avoir tout un paquet qui va être distribué. Il y en a déjà 7 qui sont téléchargeables sur le site Super Meeple et d'autres qui vont arriver.
Ah ouais, donc il y aura d'autres... Il n'y a pas que 15 enquêtes finalement alors.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, ça je laisse Fabien enchaîner pour la suite de l'année.
L'éditeur a prévu, ça s'appelle une extension intermédiaire entre chaque boîte. Donc là, il y a la première boîte qui est sortie donc à Cannes 2024. La prochaine, donc sur l'Amérique latine, c'est à Cannes 2025. Mais entre les deux, donc pour septembre-octobre, il y aura une extension. Et donc deux nouvelles histoires, peut-être trois, mais pour l'instant on est parti plutôt sur deux nouvelles histoires, qui sont donc dans l'Opéra de Paris, avec plusieurs variations à l'intérieur et donc plusieurs parties disponibles pour chacune des histoires.
Fabien, donc tu as une question pour Johan.
Oui, alors Johan, je sais que tu reviens de la convention américaine Dice Tower qui est organisée à Las Vegas par Tom Vassell et son équipe. J'aimerais plutôt te poser une question, que tu nous parles de cette aventure, parce que c'est quand même pas fréquent qu'un auteur européen va là-bas, et donc que tu nous parles de la convention et du modèle américain.
Oui, en effet, donc là je reviens de Las Vegas, on a passé une semaine avec Anne-Catherine de l'éditeur Explorate, et en fait on s'est dit avec Céline que ça pouvait valoir le coup d'aller sur une convention américaine pour y rencontrer les autres auteurs, les influenceurs et puis surtout le public, ressentir un peu comment ils reçoivent les jeux concrets, parce que nos jeux arrivent jusqu'à là-bas, surtout Turing Machine, et en fait une chose est sûre, c'est que déjà c'est bien différent. C'est peut-être la convention Dice Tower qui est comme ça, mais mais c'est une convention qui est très orientée joueurs. Et en fait, il y avait très peu d'éditeurs. Il y avait quelques influenceurs. Alors peut-être parce que c'était en conflit au niveau des dates avec un autre salon qui est énorme aux États-Unis, qui est la Gamma Trade Show. La Gamma Trade Show, en fait, c'est tous les distributeurs, les choses comme ça. Donc c'est un salon très professionnel. Donc là, peut-être qu'à cause de ça, on n'avait pas beaucoup d'éditeurs, entre guillemets, chez Dice Tower. Mais en tout cas, oui, c'est très différent. C'est très orienté joueurs. Il y a plein de tables à disposition et les gens se débrouillent. C'est pas des stands d'éditeurs qui présentent des jeux. Ouais. C'est vraiment, il y a une ludothèque incroyable de, je crois, de 6000 jeux et les gens se servent dans cette ludothèque et puis il y a plein de tables à disposition. Donc c'est très très différent et ça fait envie d'y retourner, même si au niveau rentabilité budget, je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour un pour un auteur de faire ce genre de voyage.
C'est sûr. Ouais. Johan, t'as une question pour Fabien?
Si on s'en réfère au type de jeu que l'on crée, c'est-à-dire les jeux pour les passionnés et pas les jeux en fait du mass market, les jouets, etc. J'ai envie de dire que la France est vraiment un des leaders en tout cas dans le monde pour ce type de jeu. Mmh. Et en fait, j'ai envie de demander à Fabien si il pense que se démarcher en tant qu'auteur auprès des éditeurs français, ça suffit largement. Ou s'ils pensent que ça peut valoir le coup d'aller explorer d'autres marchés et de chercher des éditeurs internationaux.
Ouais, c'est sûrement pas facile déjà d'accéder aux éditeurs francophones. Hein, quand on est un auteur, et encore plus un auteur qui commence, on sait que c'est très délicat d'avoir des rendez-vous, de faire jouer ses jeux à des éditeurs et espérer un contrat. Du coup, la tentation d'aller un peu chercher en dehors de la France, typiquement en Allemagne, en Pologne, lors du Salon d'Essen, pour aller rencontrer des éditeurs d'autres pays, bah forcément la tentation elle est grande. Moi, à titre personnel, j'ai déjà signé avec un éditeur espagnol et là je suis en train de signer avec un éditeur coréen. D'accord. Donc ça me paraît forcément être une bonne chose d'aller voir aussi à l'international. L'impression surtout, c'est qu'en France, il y a une concurrence féroce entre les auteurs. N'importe quel éditeur à qui on discute nous raconte qu'il est submergé de prototypes, de rendez-vous, de propositions, et que très fréquemment, son agenda et son calendrier de sortie est déjà plein pour les 2 ou 3 prochaines années.
Ouais. Mmh.
Donc la tentation, évidemment, d'aller chercher en dehors, s'appelle les éditeurs francophones, est importante. Malgré tout, ils sont tellement plus facilement accessibles pour nous, puisqu'on peut les rencontrer sur les différents salons, festivals, le festival de Cannes, là récemment, mais il y a Toulouse bientôt, il y a normalement Paris, Ludique, même si cette année c'est annulé. Bref, on a quand même beaucoup d'occasions, s'appelle, de rencontrer les éditeurs francophones, et c'est, par définition, plus facile et plus accessible.
Et est-ce que finalement c'est plus simple aussi pour vous maintenant que vous êtes connu de voir des éditeurs?
C'est sûr que c'est surtout Turing Machine qui a une aura internationale et c'est vrai que même aux États-Unis, j'avais exposé quelques jeux que j'avais déjà créés par ailleurs tout le monde connaît Turing Machine et tout le monde a été impressionné par Turing Machine, donc c'est vrai que ça fait une belle carte de visite et je pense. Je ne sais pas si les éditeurs arrivent à faire l'abstraction de ça. Moi, en tout cas, j'ai envie de dire que c'est... Oui, on va être plus facilement écouté, on va plus facilement peut-être obtenir un rendez-vous, mais par contre, en tout cas en France, les éditeurs sont très durs et malgré notre carte de visite et ce qu'on a fait par avant, ils n'hésitent pas à dire non, et à être difficiles, quoi.
Très bien. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On va finir avec une question. Quels sont vos projets ?
J'ai pas mal de projets dans les tuyaux. J'ai un jeu chez Blue Cocker. Alors le nom change encore régulièrement, mais on serait plutôt sur un nom du genre le dernier des droïdes. Voilà, j'ai un jeu qui s'appelle le deck building compétitif à 2 joueurs chez l'éditeur espagnol Zacatrus. J'ai un nouveau projet chez un éditeur coréen. Je vais pas trop m'étendre dessus. Je vais peut-être leur laisser communiquer à ma place. On a des jeux aussi avec Johan, on en a chez Jeco, on en a un chez Space Co, la filiale enfant de chez Asmodee.
D'accord.
Donc on a quand même pas mal de projets, et tous les deux, et perso, je crois que Johan lui en a d'autres aussi de son côté, je peux te laisser poursuivre.
Oui. Alors moi, ça se calme un peu. C'est vrai que là, j'ai fait des années dans lesquelles j'ai réussi à sortir quasiment une dizaine de jeux en comptant les petits jeux de logique. Et donc là, pour moi, ça va quand même se calmer un peu. J'essaye maintenant de passer un peu plus de temps, de finir un peu mieux mes prototypes. Mais enfin, je pense qu'actuellement, enfin, j'essaye trop de les finir et du coup, je perds vraiment du temps. Donc là, j'ai peut-être, oui, 2-3 projets qui sont signés, qui devraient arriver, mais voilà, ça va pas être l'opulence de sortie comme à une époque.
Ouais. Bah, y a Temple Code qui arrive bientôt chez Banquise.
C'est ça. Un jeu de déduction, encore une fois, minimaliste. Et donc, oui, il y a Temple Code qui va arriver très bientôt avant l'été.
Eh ben, merci beaucoup Fabien, merci Johan d'avoir été ce matin dans Celludit pour cette 500e. On fera peut-être la 1000e ensemble, qui sait.
Ouais, ben, merci pour l'invitation en tout cas.
À bientôt, salut.
Salut.
Merci.
La vie serait tellement triste sans jouer. C'est ludique. 9h30, 10h.
Mais oui, la vie serait tellement triste sans jouer. C'était la 500e de C'est ludique, la 500e quotidienne. Hein, bien sûr, parce qu'il y a eu avant des émissions hebdomadaires, mais là, c'était la 500e de la quotidienne. Merci à tous de suivre l'émission depuis le début. Et merci à tous les chroniqueurs et chroniqueuses qui participent à C'est ludique. À demain. Salut.